Voilà, donc c'est beau la technique quand ça marche. Donc le récit de notre paracha de ce matin, de cette semaine, est pour la plupart peut-être des lecteurs de la Bible que nous sommes, une portion de la Torah dont le contenu peut peut-être nous apparaître sans un grand intérêt, ou un intérêt majeur tout au moins. En effet, il y est question d'une énumération des matériaux apportés par le peuple en vue de la confection du Mishkan. Mishkan, c'est le tabernacle dans le désert, cette fameuse tente qui abritait l'Arche de l'Alliance, vous savez. En dehors de quelques expressions fortes dans cette paracha, eh bien, on est tenté de passer un peu rapidement et de poursuivre en fait plus loin notre lecture. Formellement, le texte ne présente pas non plus d'ailleurs de difficultés majeures de compréhension. Et pourtant, il nous faut dépasser un peu, à mon sens, la surface du texte et tenter de répondre à quelques questions sous-jacentes à notre récit qui peuvent être en apparence un peu fades. Les parachotes précédentes, celles qui ont lieu avant, c'est-à-dire les parachotes Yitro, celle de Jétro, cette paracha qui relate la délivrance des 10 commandements, et puis la paracha Mishpatim, qui est juste après, qui donne un certain nombre d'indications déjà de lois civiles, relate en fait plusieurs choses qui, a priori, ne sont pas nécessairement chronologiques. On lit le texte souvent comme ça, de façon rapide, mais en réalité, peut-être que les choses ne se déroulent pas de la façon dont c'est énoncé dans une chronologie exacte. Au chapitre 19 et 20, donc c'est la paracha Yitro, le peuple parvient au pied de la montagne d'Horeb, dans le Sinaï. Dieu donne là les 10 paroles au peuple lors d'une manifestation de sa présence aussi bien spectaculaire que visible. Puis au chapitre 21, au chapitre 23, Dieu donne au peuple les premières ordonnances des lois civiles et peut-être même des lois assez surprenantes comme la loi sur les esclaves qui peut paraître un peu étrange, un peu décalée par rapport à la réalité du peuple qui sort justement d'esclavage. Mais bon, c'est sur ces textes-là qu'on va s'étendre ce matin, peut-être une autre fois. Et puis au chapitre 24, Moïse et les anciens montent vers Dieu sur la montagne, puis seul Moïse entre dans la nuée pour recevoir durant 40 jours toutes les lois divines et les fameuses tablettes gravées du doigt de Dieu. Vous connaissez cette histoire, et si vous ne l'avez pas lue, vous l'avez peut-être vue au cinéma, ou avec le fameux film de Charlton Heston, enfin bref. Vient ensuite, effectivement, notre paracha de ce jour, intitulé Terouma, qui débute par le prélèvement, Terouma signifie prélèvement, ordonné pour le peuple, et l'énumération des matériaux pour la réalisation du Mishkan. La paracha suivante, celle qui est après celle d'aujourd'hui, s'appelle Tetzavé, et poursuit en réalité la description du Mishkan, des chapitres 28 au chapitre 30. Enfin, juste après, la paracha Kitissa relate l'épisode du veau d'or, qui est un texte plus narratif, au moment où Moshe redescend de la montagne et découvre le peuple qui s'est vautré dans l'idolâtrie, et c'est donc au chapitre 31 et suivant. À ce stade, on comprend bien qu'il est fort peu probable que les bonnes dispositions dont on va lire tout à l'heure les premiers versets de notre paracha, que ces bonnes dispositions du peuple permettant donc de réunir tous les matériaux nécessaires à la confection du tabernacle, est en réalité précédée d'aussi peu l'épisode funeste du veau d'or, dont il est question quelques chapitres plus loin. La présence de cette paracha un peu décalée dans la chronologie des faits qui nous sont rapportés a cependant toute son importance et les sages d'Israël ont cru percevoir dans ce passage une perspective bien plus large que la seule mention de réunion des matériaux nécessaires à cette construction. Alors on va lire les premiers versets, donc Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Offrande, ou ici prélèvement, ça selon les traductions, qui est le mot terouma en hébreu. Vous la recevrez pour moi, de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. On arrête là notre lecture, on va en faire d'autres. Alors à eux seuls, ces premiers versets en fait vont occuper l'essentiel de notre étude de ce matin. L'expression en français « qu'il m'apporte » ne traduit pas exactement ce que Moshé demande aux Israélites. Les termes seraient plutôt « qu'ils prennent pour moi ». On aurait pu imaginer une demande du type « qu'ils réunissent pour le tabernacle quelque chose, telle et telle chose, par exemple ». Mais ici, on a l'impression que les matériaux sont pour l'Éternel lui-même. Que faut-il comprendre de cette formulation pour le moins singulière ? Le Midrash établit un lien étroit entre la terouma, le prélèvement ou l'offrande, et le don gratuit de la Torah qui a précédé, et aussi la personne de Dieu lui-même. Le Midrash implicitement établit l'ordonnance de la terouma après le don de la Torah, mais aussi très certainement après la chute du veau d'or. En effet, on va lire dans Exode 32, versets 1 à 4, donc c'est un peu plus loin. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un dieu qui marche, littéralement c'est « fais-nous des dieux », c'est un pluriel en hébreu, « qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ou nous savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors le peuple est inquiet de ne plus disposer quelque part d'un conducteur qu'ils puissent voir de leurs yeux. Moshé, en effet, tardait à redescendre. En fait, il ne tardait pas. Pour ceux qui étaient là il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai fait la paracha qui concerne ce texte, en fait, c'est les Israélites qui se sont trompés de jour dans leur calcul, puisque Moshé est arrivé le lendemain de leur calcul. Et ils ont simplement été impatients. Donc Moshé, a priori, semblait tarder à redescendre, et voilà qu'ils veulent se fabriquer une image en lieu et place de ce qu'ils croient avoir perdu. Ils veulent des dieux qui marchent devant ou au milieu du peuple. Voilà ce qui est mentionné dans notre texte au verset 1. Aaron ordonne alors un prélèvement d'or tiré ici des bijoux dont les Israélites étaient revêtus, littéralement ornés. Ça fait un peu bizarre en français, j'en conviens, mais ils étaient ornés de bijoux, qui étaient habillés de bijoux en or. Et il en fait un dieu, le veau, ou plus littéralement en fait un taureau en or. On comprend le dévoiement de l'image en relation avec la Torah reçue ou qu'ils vont recevoir sous la forme des tablettes et la personne de Dieu dont ils ont aperçu pourtant quelque part une représentation glorieuse dans le ciel au moment où ils sont arrivés au pied de la montagne d'Horeb. La faute du veau d'or montre les limites des dispositions du peuple et le besoin d'une démarche autre de Dieu pour conduire son peuple littéralement par la main, comme le rappelle le prophète Jérémie, Jérémie 31, verset 31, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Dieu a tiré son peuple en le tenant par la main, un petit peu comme quand on prend un gamin de 6 ans qui refuse de suivre de façon sage ses parents, eh bien on le prend par la main, on lui dit « maintenant tu restes avec nous et tu nous suis ». C'est un peu ça que Dieu a fait finalement avec son peuple. Or, le projet divin est bien la réalisation d'un sanctuaire aux dimensions somme toute plutôt modestes, un lieu de résidence pour le Dieu qui pourtant embrasse tout l'univers. Le sanctuaire qui se dessine est moins une résidence, à mon sens, que le seuil d'une porte qui s'ouvre sur l'Éden de Dieu. Le temple plus tard érigé à Jérusalem remplira, comme le tabernacle dans le désert d'ailleurs, la fonction d'une sorte de porte d'entrée vers la présence divine. La décoration d'ailleurs et l'ornement des palmes et autres verdures illustrent le lien existant entre le lieu richement décoré et à l'accès limité et bien sûr le jardin d'Éden, rappel de l'idéal rapport permanent entre Dieu et le premier couple humain. Il est d'ailleurs fort intéressant, je fais ici une petite aparté, il est intéressant de remarquer que la plupart des temples païens reproduisent d'ailleurs la même verdure, rappelant en ceci qu'ils étaient, s'il en était besoin d'ailleurs, que c'était la traduction d'une aspiration à retrouver la félicité du jardin originel. L'ordre de construction du tabernacle est sans aucun doute prévu depuis le début par Dieu, mais il est de toute évidence la conséquence directe de l'échec du peuple à recevoir la Torah dans toute sa plénitude et vivre une relation avec Dieu, un Dieu qui le transcende. En conséquence, Dieu établit une certaine distance entre lui et son peuple et il communique les conditions d'accès à sa présence. Le peuple exprime cependant son dépit et sa déception, un peu comme un enfant frustré d'un privilège dont il ne comprend pas la portée. Exode 33, verset 3. « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, dit l'Éternel, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple au cou roide, ou à la nuque raide, selon les traductions. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Se tenir dans la présence de Dieu n'est pas aussi simple que cela, et le peuple doit apprendre qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Certes, le peuple est un peuple à la nuque raide, expression symbolisant bien sûr la nature rebelle de ce peuple. Mais il tarde à comprendre que la sainteté de Dieu ne supporte pas la rébellion. On notera d'ailleurs le détail au sujet des ornements dont Dieu demande à présent qu'ils se dépouillent. Ces ornements dont Aaron s'était servi peu auparavant pour fabriquer le fameux veau d'or. Ce dépouillement prépare-t-il la suite et donc la terouma qui nous occupe? C'est pas impossible. Le dépouillement voulu par Dieu est l'expression d'une consécration totale et volontaire qui est sans lien avec un quelconque mérite. Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, donc le grand commentateur juif du Moyen-Âge, soutient l'idée d'une consécration désintéressée qui passe par un élan du cœur. Le peuple apporte son offrande pour Dieu, non pour lui-même. L'interprétation du « lo » en hébreu, qui signifie « pour moi » du verset 2. La fin du chapitre concerne Moïse qui souhaite également voir, je suis ici dans le chapitre 33, Moïse qui souhaite également voir la gloire de Dieu, et elle lui sera refusée. Mais il aura l'assurance que Dieu marchera à ses côtés. Un détail un peu décalé ici est celui de la mention de la tente d'assignation, sans trop de détails d'ailleurs, toujours au chapitre 33. sinon que seuls Moïse et Josué y ont accès et que Moïse déplace celle-ci après l'épisode du veau d'or. Épisode, donc, il sort cette tente d'assignation du milieu du peuple et il la place hors du camp. Alors, il fait cela entre les deux moments où il passe sur la montagne. Vous savez, le premier moment où il est déjà, première fois descendu avec les tablettes, où il s'est fâché, bien sûr, avec le peuple qui s'était vautré dans le veau d'or. Et puis, il remonte une deuxième fois pour chercher les nouvelles tablettes qui, elles, seront placées ensuite dans l'arche. Et donc, entre les deux, il y a ce mouvement et cet épisode où Moïse déplace cette tente d'assignation. Moïse, c'est au verset 7, « Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance, et il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. » On a cette répétition de cette occurrence, « hors du camp ». Il est nécessaire ici que le peuple comprenne ce que ça veut dire. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alors en fait, je ne pense pas formellement qu'il s'agisse ici du tabernacle dont il est question, dont on aura d'ailleurs une multitude de détails précis quelques chapitres plus loin. Peut-être s'agit-il ici en fait d'une tente faisant office de lieu symbolique de la rencontre de Moïse avec Dieu. Parce que ce qui est mis, l'accent qui est mis dans cette portion de texte, c'est ce rapport étroit entre Moïse et Dieu. Mais peut-être nous pouvons voir dans cette tente d'assignation dont il est question ici au chapitre 33, une sorte d'anticipation du tabernacle que les Israélites mettront quand même presque une année pour le construire. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes. L'épisode du veau d'or se déroule selon la tradition le jour de Kippour. Certes, Dieu pardonne à son peuple, mais en l'occurrence, Moïse intercède sans offrir un sacrifice. On peut avoir l'impression que la réponse divine au péché d'Israël est ici l'ordre de construction du tabernacle avec le sacerdoce qui lui est consacré. Pour le Midrash, le tabernacle a pour objet de servir de témoignage devant les nations que Dieu a bel et bien pardonné à son peuple ses péchés. Il illustre son propos de manière double. Le peuple a reçu de Dieu la Torah, il a en quelque sorte marié son peuple avec sa Torah, mais Dieu ne veut pas, entre guillemets, laisser seul le peuple avec sa Torah. Et il vient en quelque sorte le rejoindre sur la terre au moyen du tabernacle. C'est la fameuse histoire du roi qui marie sa fille, donc sa Torah, avec un prince, Israël, mais qui demande que partout où se rend le prince et sa fiancée, il réserve une petite chambre pour le roi, le père. Alors évidemment, c'est une histoire un peu cocasse, mais qui traduit bien, en tout cas, qui est très connue dans le monde juif, cette petite histoire, mais qui montre cet attachement de Dieu à son peuple pour lui faire comprendre finalement la portée de toute sa Torah. Le tabernacle est bien entendu cette petite chambre dont il est question dans le Midrash. Et c'est alors que de ce lieu que le témoignage de Dieu et de son peuple rayonne vers les nations. Et d'où la vocation du tabernacle, et plus tard du temple, de servir de rayonnement à cette lumière de Dieu. Le Midrash poursuit et souligne en soulignant la portée universelle de ce témoignage jusqu'à l'établissement de son Mashiach. Il ajoute encore que le sacerdoce a une fonction expiatoire, et là on ne peut être que d'accord, la nécessité que du sang soit versé afin que le péché soit pardonné, une fonction expiatoire incontournable qui permet au peuple finalement enfin de pouvoir s'approcher de Dieu. Mais poursuivons. Dans notre passage, 13 matériaux sont mentionnés, dont trois métaux, l'or, l'argent et le cuivre, ou l'airain, selon les traductions. Pour Rashi, toujours, ces trois métaux correspondent à trois types d'offrandes. Les terumotes, un béka par tête, qui était donc une unité de mesure, première offrande qui était de l'argent pour fabriquer les socles du tabernacle, les socles qui allaient recevoir les planches ensuite. Un béka par tête, là aussi une offrande obligatoire, une offrande pour acheter les holocaustes collectifs, notamment le sacrifice perpétuel, celui qui était en fait double, un agneau le matin, un agneau le soir, qui était obligatoire tous les jours. Et puis enfin, une troisième offrande qui, elle, est libre, laissée à l'appréciation de chacun. Toujours pour le Midrash, la racine de Teruma est le mot Ram, qui signifie élevé. Et il en déduit que cette dernière offrande, la troisième, est capable d'élever aussi bien l'offrande que celui qui la porte. Ici, je ne cite que le Midrash, je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux, mais c'est intéressant de voir la manière dont il l'illustre. Alors, évidemment, nous nous réservons le droit de ne pas suivre nécessairement la pensée de Rashi avec ce propos. Mais dans notre texte, l'édification du Mishkan, avec sa multitude de matériaux précieux apportés par le peuple, est bien moins un moyen donné au peuple de s'élever lui-même qu'au contraire permettre à Dieu de descendre en quelque sorte sur la terre pour marcher au milieu de son peuple. Ce que je veux dire, c'est que ce Mishkan est moins le moyen pour le peuple de s'élever que pour Dieu de s'abaisser vers son peuple. C'est bien parce que le peuple a été incapable de monter sur la montagne pour aller à la rencontre de Dieu et survivre que finalement Dieu fait le choix de descendre lui-même à la rencontre de son peuple. Maintenant, l'élan du cœur attendu du peuple, évidemment, pour offrir en la circonstance les matériaux en vue de confectionner le Mishkan, est bien un reflet du Chesed, c'est-à-dire la grâce divine, qui donne sans compter et sans contrepartie. Et il est intéressant de voir que même si ici le peuple va donner avec l'élan du cœur, nous est-il dit, c'est-à-dire avec une bonne volonté, avec un cœur entier pour se consacrer finalement à Dieu, un peu plus tard, il va falloir même envoyer une ordonnance pour dire au peuple d'arrêter d'apporter des matériaux parce qu'il y en avait largement suffisamment pour réaliser l'ouvrage. Pour le Midrash, la Teruma matérialise en quelque sorte les commandements divins de l'amour voué à Dieu, mais pas seulement l'amour, également la crainte ou la révérence qui est due à Dieu, de même que finalement aussi le produit du travail personnel, ce qu'on appelle aussi la Melacha. Vous savez qu'il y a deux manières de désigner le travail en hébreu, la avoda, qui est le travail séculier, classique, habituel, et la melacha, qui est le travail interdit, qui fait partie des 39 travaux interdits, qui sont en fait les travaux relatifs à la construction du tabernacle. L'ensemble élève l'individu vers ce qu'on appelle en hébreu le devekut, l'attachement à Dieu. Le Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, c'est un autre penseur du Moyen-Âge, d'origine espagnole celui-là, le Rambam va jusqu'à ajouter que celle-ci, donc la Devekut, permet à Dieu de venir vers sa résidence dans l'homme. Et bon, c'est le Rambam qui le dit. Dans le judaïsme moderne, les trois offrandes dont j'ai parlé il y a un instant, qui sont mentionnées dans le Midrash, sont en fait transformées en trois prières, les trois prières quotidiennes du juif, celle du matin, celle de l'après-midi et celle du soir. Cette perception des choses du Midrash et du Rambam ont l'inconvénient cependant de placer l'homme au centre et même au cœur de la rencontre avec Dieu. L'attitude de l'homme et son action même conditionnent le rétablissement du lien avec Dieu. Voilà peut-être quelque chose qui pose un peu problème dans notre texte ou dans l'interprétation du Midrash. Or, il semble bien que l'ordre de construction du tabernacle est une réponse à l'échec du veau d'or. Le peuple est incapable de recevoir la présence transcendante de Dieu en son sein. Comment pourrait-il devenir alors le moteur de cette relation délicate avec Dieu ? Israël est comme un enfant que Dieu guide en le tenant par la main, comme le prophète Jérémie le mentionne. Les efforts de l'homme pour se rapprocher de Dieu sont voués à l'échec. C'est de Dieu seul que peut venir en réalité la solution. Toute l'histoire d'Israël montre la faiblesse de ce peuple à persévérer dans l'alliance qu'il va maintes fois violer. Certes, le dépouillement conduisant à la terouma est juste et nécessaire, mais au regard de notre texte, c'est bien Dieu qui est à l'initiative et la contemplation de la gloire de Dieu n'est pas encore à l'ordre du jour, ni pour le peuple, ni même pour Moïse à ce moment-là. Cependant, c'est avec une certaine raison que Rashi évoque la délivrance d'Israël en trois étapes ou en trois temps. Il y a d'abord la Pâque, la sortie d'Égypte, que nous connaissons bien. Puis le don de la Torah sur la montagne d'Horeb. Et puis enfin, le tabernacle, qui fait partie de cette, comment dire, trilogie, ce trio d'éléments de révélation de la part de Dieu qui constitue la délivrance. La Pâque seule aurait peut-être atteint ses limites. Il ne s'agissait pas simplement de sortir le peuple et de le laisser ensuite mourir dans le désert. Il lui fallait la Torah, effectivement, pour avancer, pour comprendre la pensée de Dieu, et le tabernacle pour s'approcher de Dieu. Cependant, le commentateur associe aussi trois concepts qu'il va relier aux trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Il parle de trois concepts qui sont les suivants. Il s'agit du vase, de la lumière et du rayonnement. Je sais que j'entre dans quelque chose d'un petit peu complexe, mais simplement pour vous donner une petite idée de la manière dont le Midrash comprend les choses. Le vase, ici, il s'agit d'Israël qui sert de réceptacle, en quelque sorte, à la lumière et que Dieu a lavé et purifié à Pessah. Enfin, en deuxième point, c'est la lumière qui n'est autre, bien sûr, que la Torah de Dieu, elle-même, qui a vocation à éclairer toute l'humanité au travers d'Israël, son peuple. Et enfin, le Mishkan, qui est le lieu du rayonnement de cette lumière vers l'extérieur. Dans le temple, d'ailleurs, les fenêtres du lieu saint avaient été conçues de telle sorte que de l'extérieur, on ne puisse pas voir l'intérieur, mais que la lumière de la menorah qui était dans le lieu saint pouvait rayonner vers l'extérieur. Alors, quoi que l'on puisse penser de cette construction intellectuelle de Rashi et de bien d'autres commentateurs, il met ici cependant en évidence le rôle symbolique d'Israël, de la Torah et du Mishkan, comme témoignage vis-à-vis des nations. Ce témoignage, nous le savons, a été important, quoique imparfait. On ne peut pas dire qu'Israël ait bien rempli toujours son rôle, mais il l'a fait cependant. Et il se poursuit encore aujourd'hui d'une certaine façon avec les limites que sont d'abord, bien sûr, la disparition du tabernacle et même du temple, qui n'existe plus non plus aujourd'hui. À ce sujet, les sages du judaïsme sont bien en peine d'expliquer le rayonnement du témoignage du Mishkan sans son existence. C'est là qu'il nous faut pointer un détail que les rabbanim n'ont sans doute pas suffisamment creusé. Le Mishkan n'a pas été réalisé sur plan, comme on ferait aujourd'hui avec un architecte qui imaginerait une maison, un édifice quelconque, et qui, avec un ordinateur et les moyens techniques d'aujourd'hui, ferait les plans depuis son esprit pour réaliser ce plan. Non, le Mishkan a été réalisé d'après un modèle dans le ciel, reçu par Moïse. Plutôt que Moïse a vu dans le ciel, pour être exact. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne manque pas de mentionner d'ailleurs cette réalité. Et on l'a déjà vu il y a au moins un an peut-être, quand on a fait les chapitres, le chapitre 8 notamment. Donc l'auteur de la lettre aux Hébreux ne manque pas de mentionner cette réalité. Le Mishkan dans le désert n'est en fait qu'un reflet, pas un mirage, un reflet. L'ombre d'une réalité céleste. Or l'ombre n'est par définition pas la réalité intrinsèque de l'objet qui lui est dans le ciel et qui est encore dans le ciel. Que dit l'auteur dans Hébreux 8, verset 8 ? Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Le tabernacle dans le ciel n'a pas été fait par les hommes, mais par Dieu lui-même. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, ce dont que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il lui a été dit, et soin lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et l'auteur rappelle ici que le tabernacle construit par les Israélites dans le désert n'était que le reflet, effectivement, du modèle dans le ciel. Et il le rappelle au verset 5. Lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et cela reprend ce qui est dit dans notre paracha, Exode 25-40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Un point donc capital que peut-être les rabbanim ont un petit peu, pas occulté, mais en tout cas minimisé. Alors certains se sont posé la question de la manière dont Moïse avait reproduit le modèle qui lui était présenté, tout comme la forme du culte. Or, on a cette dualité implicite entre le modèle dans le ciel et sa reproduction sur la terre. Les Grecs, avec Platon, voyaient là une forme de chemin vers le divin. La mer, la terre et le ciel étaient en quelque sorte les trois portes menant au ciel, siège de la divinité. Le contraste entre la perfection dans le ciel et l'imperfection sur la terre creuse une sorte de fossé entre deux mondes radicalement différents, mais où ne s'établit aucun pont. Ça, c'est Platon, c'est les Grecs. D'autres voient dans cette dualité répétée de l'auteur une pensée différente, une forme d'eschatologie ou une forme eschatologique à l'échelle des temps et des moments. Le ciel et la terre sont non pas opposés comme s'ils n'avaient rien en commun, mais comme le reflet l'un de l'autre. C'est un peu différent. Le reflet est certes éphémère et voué à disparaître, tandis que la réalité d'en haut est éternelle et véritable. Le temps de l'un est abouti, tandis que l'autre vient à s'établir. La notion de modèle dans le ciel a été réfléchie par beaucoup de commentateurs qui ont vu également dans le temple d'Ézéchiel, c'est les chapitres 40 et suivants du livre d'Ézéchiel, aussi un modèle du temple sur la terre. On se heurte toutefois à un problème de timing. La vision d'Ézéchiel est postérieure à la construction du temple lui-même. Dans l'hypothèse du modèle, on peut alors imaginer que ce temple vu par le prophète est pour une autre période qui n'a pas encore vu le jour. L'auteur de notre lettre déroule sa comparaison en ne manquant pas de préciser ce qui rend meilleur et plus parfait l'original dans le ciel. En effet, il affirme rien de moins que « nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine ». Le souverain sacrificateur dans le ciel est assis à la droite de la majesté divine. En d'autres termes, il est Dieu lui-même. Par ailleurs, le tabernacle original a été dressé par le Seigneur lui-même et non par un homme. Comme il est dit, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Une autre façon de réaffirmer finalement la pérennité de l'ouvrage. Moïse et les Israélites avaient mené pendant plus d'une année un ouvrage de haute qualité et avec des matériaux précieux. Et pourtant, aujourd'hui, il n'en reste rien. Il est clair que le tabernacle dans le ciel, vu par Moïse comme le temple, observé par le prophète Ézéchiel, sont toujours debout et ne subissent pas l'outrage du temps, dès lors qu'ils sont dans le ciel. Le rabbi Tarfon, qui est plus ou moins connu, mais enfin, dans son commentaire, conditionne finalement la présence divine au travail, à la melacha des hommes en rapport avec le Mishkan. Ce sont les hommes qui, par leur travail, permettent le rapprochement avec Dieu. C'est ce que dit ce rabbin. Les kabbalistes penchent pour une allégorie plutôt audacieuse, il faut en convenir. Il relie les trois symboliques, les lieux symboliques, pardon, du Mishkan, que sont la cour, ou là où il y avait l'autel, à l'extérieur, le lieu saint et le lieu très saint, aux trois éléments principaux de l'édifice, que sont les socles, les planches et les tentures ou tapisseries qui habillaient l'ensemble de l'édifice. Ils y reconnaissent les trois noms de Dieu, Elion, le tétragramme et Adonai, comme les trois séphirotes représentant la divinité. Et ça, c'est les kabbalistes. Ce qu'en définitive les rabbanim tentent maladroitement de faire, c'est d'établir un pont de la terre vers le ciel, tandis que c'est l'inverse que Dieu produit. Dieu prépare un chemin qui passe non par l'élévation de l'homme vers Dieu, mais par en quelque sorte l'abaissement de Dieu vers les hommes. Un peu comme, ça me fait penser à le prophète Ésaïe, qui criait à Dieu face à l'adversité dans laquelle il se trouvait et qui disait « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» C'est ce que Dieu a fait. Le reflet du tabernacle dans le ciel, sur la terre, a indiscutablement un message eschatologique à communiquer. Dès le départ, il y a comme une évidence que le tabernacle n'est pas là pour durer, mais pour parler au cœur, à la conscience de l'Israélite. Je suis toutefois tenté d'évoquer encore un aspect qui, lui, relie le tabernacle non à une perspective future, mais à une réalité passée. Lisons dans Exode 25, dans notre paracha, les versets 10 à 22. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en sortiront point et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu avec 2 aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. On a ici vraiment une multitude de détails et on peut s'imaginer assez facilement comment les choses étaient. Tu mettras le propitiatoire, qui est en fait le couvercle, hein, sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, la description du tabernacle commence ici, si j'ose dire, par ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire l'arche elle-même, entièrement recouverte d'or. Cette arche contient le témoignage, et ici il s'agit des tables de la loi qui vont être placées dans, l'arche du témoignage. Il y sera aussi placé, mais c'est plus tard, la verge d'Aaron qui aura fleuri, ainsi que la manne, en tout cas une portion de manne, qui seront également rangées dans cette arche. Alors ce qui peut surprendre cependant, c'est le propitiatoire. Donc il s'agit du couvercle qui venait recouvrir ce coffre, qui était également en or et qui couvre l'arche. Il recevra l'aspersion du sang le jour de Kippour pour faire l'expiation pour l'ensemble des Israélites. Donc on ne peut pas dire que ce soit si souvent que cela que le souverain sacrificateur y accède pour observer ce qui s'y passe. Donc une fois par an, il vient déposer le sang ou asperger le sang de Kippour pour les Israélites. Plus curieux encore sont les deux chérubins en or qui, sur le couvercle, se font face l'un à l'autre, ou l'un à l'autre, et entre lesquels se tient finalement la présence divine, la Shekhina. Comment imaginer que soient reproduits en un tel lieu deux chérubins aussi symboliques que ceci dans le lieu très saint, dans la présence divine. L'ordre de ne rien reproduire de matériel en rapport avec la divinité était pourtant formel. Quel sens alors donner à ces éléments ? Le Talmud évoque l'attitude positive ou négative d'Israël, susceptible d'amener les chérubins à se faire face ou au contraire à se tourner le dos et regarder vers le mur. D'autres commentateurs privilégient les symboles de la grâce, le chesed, et celui de la justice, tzedaka. On est dans le lieu très saint, en quelque sorte dans un, à mon sens, une sorte de tribunal où se tiendrait une plaidoirie. On aurait pu imaginer quelque chose de beaucoup plus simple, puisque Dieu est impalpable, il est invisible. Non, ici, on n'est pas dans quelque chose de vide. Certes, Dieu se place entre les chérubins, au-dessus du propitiatoire. Il est visible de tous, enfin des chérubins ou du propitiatoire, mais lui-même peut tout voir, les chérubins et le propitiatoire, et éventuellement le sang qui est versé dessus. La grâce et la justice sont face à face devant Dieu. Elles se tiennent au-dessus du témoignage qu'est la Torah elle-même, un témoignage a priori à charge. Mais le sang présenté par le souverain sacrificateur est le seul, et seul en mesure d'apaiser. Vous savez que le mot apaiser, c'est la même racine que le verbe payer en français. Donc payer, c'est apaiser. Et ici, payer une rançon, c'est le prix, ici c'est le sang. Il faut que le sang soit versé. Et donc, seul le sang présenté par le souverain sacrificateur est en mesure d'apaiser la justice et permettre à la grâce divine d'ouvrir le chemin à Dieu pour l'homme qui se présente devant lui. Le premier couple humain avait été chassé du jardin d'Éden, souvenez-vous, à cause de sa faute. Et il en a été empêché d'y revenir, donc dans le jardin, par des chérubins. À l'épée tournoyante, nous est-il dit. Relisez cela dans les premiers chapitres de la Genèse. Des chérubins placés sur le chemin de l'arbre de la vie. Et j'allais dire plus clairement encore, de la présence de Dieu. Le tabernacle montre sans doute que le chemin du retour au jardin est possible. L'éphémère construction dans le désert donnait une espérance concrète aux Israélites. La perspective du tabernacle dans le ciel remplit le cœur du croyant d'une assurance nouvelle. Dieu n'a pas laissé le peuple s'égarer loin de lui. Il lui a tenu la main tout le long et au travers du reflet visible du Mishkan dans le désert, il lui a montré le véritable tabernacle dans le ciel. Celui qui a été inauguré par un sacrificateur dont le sang a versé pour nous ouvrir le chemin, à savoir Yeshua lui-même. Eh bien, puissions-nous garder à l'esprit cette perspective de l'invisible, au-delà du visible, et prendre la main de celui qui a inauguré pour nous le chemin qui mène à Dieu. Amen.